Pluriel Gay.
Merci à toutes et merci à tous de nous retrouver pour une nouvelle émission de Pluriel Gay sur Radio Pluriel. Ce soir, notre émission a été enregistrée le 17 mai dernier au Centre LGBTI. Il s'agissait de l'inauguration de la bibliothèque du Centre. Yvan Mitifio était présent. Il a donc tendu le micro de l'émission à diverses personnes qui étaient présentes ce soir-là. Et nous allons donc entendre dans l'ordre les entretiens qu'il a menés avec Roméo Izart, responsable de la commission bibliothèque, Loïc Graber, adjoint à la culture de la ville de Lyon, ainsi que l'association SOS Homophobie, qui était également présente au centre en cette journée d'inauguration de la bibliothèque, qui était aussi en correspondance avec la journée de l'IDAOT, la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Nous allons donc retrouver tout de suite Yvan et ses invités, et pour ma part, nous nous retrouverons en fin d'émission.
Roméo Izart, bonjour. On est aujourd'hui le 17 mai, journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, et c'est aujourd'hui qu'a lieu l'inauguration de la bibliothèque du centre LGBTI, dont tu es l'initiateur.
Alors, bonsoir.
Bonsoir. D'où vient donc cette idée de créer la bibliothèque du centre LGBTI de Lyon ?
Eh bien, c'est une idée toute simple, en fait. Moi, je viens de l'université, je faisais un master de recherche et je travaillais sur les festivals de cinéma homosexuel en France dans les années 70. Et donc, j'étais à la recherche d'archives, de traces, de sources. Et donc, j'ai commencé à demander en fait à des associations si elles avaient ce genre de documents. Et donc, j'ai contacté le centre LGBT de Lyon en décembre 2016 pour demander s'ils avaient des traces et des sources et des livres, des ouvrages historiques sur cette période. Et en fait, on m'a dit que le centre était en train de se restructurer et que ces documents, oui, potentiellement, il y en avait, mais qu'ils étaient dans des placards, qu'ils n'étaient pas valorisés et que les associations ne savaient pas trop comment gérer ça. Moi, à cette époque, j'étais moniteur étudiant dans une bibliothèque et donc j'ai proposé mes services pour m'occuper de ça. Et donc, Laurent Chauvin m'a gentiment proposé d'animer la commission bibliothèque et archives du centre LGBT. Donc, on a fait un dossier de subvention et qui a été accepté par la DILCRA. Et donc, on a pu acheter des livres.
Alors, DILCRA, préciser ce que c'est la délégation interministérielle contre les LGBT-phobies.
Oui, et le racisme et l'antisémitisme aussi. Donc, qui a été mise en place il y a quelques années. Et donc, on a fait un dossier de subvention qui a été accepté. Et donc, tout au cours de l'année 2017, comme on n'avait pas encore l'argent, donc là, on a constitué des réseaux, on a travaillé avec les associations, on a fait un petit groupe au sein de... Donc, dans la commission, on était un petit groupe de bénévoles qui se sont mobilisés. Et donc, par exemple, on est monté à Paris à l'été 2017. On a fait l'aller-retour en train, parce qu'on est pauvre, dans la même journée. Et c'était assez rocambolesque, et donc on est parti à 6h du matin à Pardieu, on est arrivé là-bas à 11h, on a pris les livres et puis on est reparti, du coup on est arrivé le lendemain à 4h du mat, et donc on a ramené chacun, on était trois, on a chacun ramené un sac à dos et deux valises, qu'on a traîné dans tout Lyon, parce que les transports en commun, ils n'avaient pas encore à 4h du mat, et qu'on a ramené au centre LGBT.
Mais auprès d'où vous avez pris ces ouvrages ?
Auprès du centre LGBT de Paris, Île-de-France.
Des ouvrages en double, vous avez ?
Voilà, c'est ça. Donc c'est très généreux en fait ce qu'ils font à la bibliothèque du centre LGBT de Paris Île-de-France, et c'est assez inspirant pour eux aussi ce qu'on fait ici. Donc on s'est aussi inspiré de leur mode de fonctionnement, parce que bon, on n'a pas la science infuse, quoi. C'est aussi un métier, quoi, donc on ne va pas tout inventer.
Donc quand même, vous êtes allé consulter d'autres bibliothèques, d'autres centres, pour voir comment ça se passait.
Surtout le centre de Paris. Parce que c'est le centre le plus gros au niveau des associations en France. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de dons, et que c'est pour ça aussi qu'ils peuvent être aussi généreux avec les autres centres et les autres associations en France.
Alors là, vous avez des subventions donc de la DILCRA,
oui.
De la ville de Lyon aussi ?
Non.
DILCRA.
Juste DILCRA.
D'accord.
Et d'ailleurs, ils ont baissé cette année.
Ils vous donnent combien, concrètement? C'est l'argent public, on peut le dire.
Voilà, donc la première année, ils nous ont donné 3000 euros et cette année, 1000 euros.
1000 euros, d'accord.
Donc c'est pas assez.
Non, il faut faire un effort.
C'est pas assez du tout.
Et donc avec ces 3000 euros, vous avez fait quoi? Vous avez acheté des ouvrages? Vous avez acheté des...
En fait, c'est difficile d'acheter des ouvrages. Les fonds qu'on a, ce sont des fonds datés, en fait. Ce sont les fonds de deux associations qui avaient déjà une bibliothèque sur Lyon, qui s'appellent donc Aris et le Forum Gay et Lesbien.
Et là, vous avez récupéré le fonds de ces deux associations?
Voilà, on a récupéré donc ce fonds. Donc c'est un fonds documentaire, donc c'est des livres. Donc on a récupéré tout ça et donc c'est un fonds qui est daté puisque la bibliothèque à un moment est morte. Mais elle était toujours conservée dans les locaux du centre LGBT. Donc il a fallu sortir ces livres des placards et les mettre à disposition des associations, des militants et des militantes. Et donc l'argent a servi à acheter les bibliothèques essentiellement et le meuble aussi à périodiques et à archives.
Et il y a cette bibliothèque, il y a combien de documents dans cette bibliothèque?
Alors, pour l'instant, on est en train de faire l'inventaire, et comme il y a les doubles, on est en train un peu d'éliminer aussi les doubles, parce que les doubles, on va peut-être les échanger justement, soit avec Paris, soit avec Marseille. On est en train d'essayer de créer un réseau comme ça pour qu'il y ait des échanges entre les associations et entre les villes. C'est important d'avoir cette solidarité-là. Au niveau des livres, donc, parce que c'était la question, donc on a à peu près 1200 ouvrages. Donc qui sont assez intéressants puisque justement ce sont des romans, ce sont des fictions, ce sont des ouvrages qui ne sont pas forcément valorisés dans des collections plus institutionnelles. Et donc c'est ce qui fait aussi réellement, enfin l'essence, on ne va pas parler d'essence, mais ce qui fait la base de ce qu'on pourrait appeler en fait une culture queer justement. Ce sont ces fictions, c'est de la littérature qui est populaire. Voilà, on ne fait pas de tri académique là-dessus. Au contraire, le but, c'est vraiment de mettre à disposition les cultures queer au plus grand nombre et de les partager. On a aussi quelques ouvrages du coup, qui sont beaucoup plus académiques aussi, donc, parce que c'est important. C'est aussi, les associations sont aussi expertes dans ce domaine. Enfin, c'est elles qui avancent des nouvelles idées. Donc voilà, c'est aussi important d'avoir ces idées-là au centre LGBT. Après, au niveau des autres documents, on a à peu près 500 périodiques. C'est des périodiques qui sont historiques, c'est-à-dire Guépier, Lesbia. On a aussi quelques revues d'Aris au tout début, dans les années 80, qui sont très émouvantes aussi à découvrir. On a d'autres revues aussi très intéressantes. Hétéroclite nous a fait un don et on a tous les hétéroclites aussi pour les mordus d'hétéroclite. Donc c'est très, très intéressant. Et on a aussi plein de DVD, voilà, grâce au centre LGBT de Paris et aussi à Écranix qui a fait 2-3 dons.
Merci. Donc ce soir, c'est l'inauguration du centre. Alors ça se passe comment quand on veut emprunter un livre ou un DVD auprès de la bibliothèque, on fait comment en fait?
C'est très simple. Donc on a tous les mercredis soirs, toutes les semaines, une permanence de 18 à 20 heures. On s'est calé sur les horaires d'ouverture en fait du centre LGBT qui fait un accueil maintenant au nom du centre LGBT et non plus. Et cet accueil-là, ils n'ont plus géré par une association, mais par le centre LGBT lui-même.
D'accord.
Donc comme on est le centre LGBT, on s'est calé dessus en fait.
Mais une personne lambda doit adhérer au centre LGBT pour emprunter des livres?
Soit adhérer au centre LGBT, soit être membre d'une association du centre.
D'accord.
Donc, voilà. Donc, par exemple, du Forum, de Chrysalide, de l'association des motocyclistes alternatives, etc.
D'accord.
Ou des crans mixtes.
Et donc, est-ce que ça commence déjà à...
Oui, ça marche, ça fonctionne. Depuis janvier, on est ouvert depuis janvier 2018. On est 5 bénévoles, on est un noyau qui est très soudé, c'est-à-dire qu'on est là pratiquement toutes les semaines, tout le monde. Voilà, donc c'est très fort, mais on n'est pas aussi assez pour ouvrir plus largement la bibliothèque, parce qu'on est très conscient que 2 heures par semaine, c'est pas suffisant. Mais voilà, donc il faut venir nous voir les mercredis soirs. Et donc à ce moment-là, pour la consultation est libre et gratuite. Et pour le prêt, donc tout le monde peut emprunter à partir du moment qu'il est membre ou qu'elle est membre d'une association du centre. Et donc le prêt, c'est 2 ouvrages, 2 documents pour un mois renouvelable.
D'accord. Voilà. Donc les 1200 ouvrages, vous les avez tous cotés?
C'est en cours de cotation. Donc c'est en cours de cotation parce que ça prend beaucoup de temps et que aussi on hésite sur les modes de fonctionnement. Comme on est aujourd'hui en discussion avec des institutions, notamment la bibliothèque municipale, c'est très enrichissant puisqu'on arrive à échanger aussi sur les modes d'organisation, des techniques de métier aussi. Donc c'est très enrichissant. Donc on avance petit à petit et on se fait notre propre tambouille un peu. Donc oui, c'est en train d'être coté, mais après il n'y a pas de souci pour le prêt, comme on est ouvert, voilà. Et c'est aussi une manière aussi de faire vivre la bibliothèque, c'est-à-dire tous les soirs on avance aussi sur cette bibliothèque, et voilà, c'est une manière aussi de faire un peu boule de neige. Donc tout ce travail de cotation et d'indexation sera normalement terminé en septembre prochain, et à partir de septembre, il y aura des animations. On espère au moins une fois tous les 3 mois autour de la bibliothèque où on invite un auteur et peut-être aussi, on espère avec Pluriel Gay, on a un petit projet.
Si on veut vous donner des documents, comment on fait et à qui on doit s'adresser?
Alors, on a une adresse mail qu'on peut contacter pour toutes les questions éventuelles.
On va la rappeler.
C'est bibliothèque@centrelgbtilyon.com.
Tout attaché.
.org. Tout attaché. Donc bibliothèque@centrelgbtilyon.org. Et donc ensuite on a donc tous les bouquins qui sont laissés au bar en bas peuvent être laissés au bar au cours d'une permanence d'une association. Les personnes sont au courant, ça peut monter à la bibliothèque, il n'y a pas de souci. Et pour les personnes un peu plus timides, parce que c'est vrai que ça demande aussi parfois un effort de franchir la porte d'un centre LGBT. On a aussi, donc c'est pour ça qu'il y a ce mail aussi, et on peut aussi, si on est un petit peu timide, on a un meuble à archives avec un casier qui est vide et qui est dévoué aux dons. Donc dessus, c'est écrit ce que l'on veut tout. Et donc dans ce casier, on peut mettre les dons d'ouvrages, d'archives, de tout ce qu'on veut. Voilà. Et donc le centre et la commission s'engagent à ce que ces ouvrages et ces archives soient traités de la meilleure manière qui soit. Donc, c'est-à-dire soit intégrés au fonds si on n'a pas ces ouvrages, soit après donnés à d'autres associations pour que ça tourne, parce que c'est important que ces cultures soient vivantes.
Il y a aussi un fonds d'archives au sein de cette bibliothèque.
Alors, la bibliothèque, elle est modeste. On ne peut pas non plus envahir tout le centre. On a déjà colonisé une grande salle, donc on est très heureux. Donc on n'a pas la place de conserver toutes les archives des associations. On peut conserver pendant un temps les archives, mais il va falloir trouver une solution après pour déposer ces documents dans un lieu. Donc c'est pour ça qu'on essaye aujourd'hui de travailler avec des institutions comme le Point G, la bibliothèque ou les archives départementales pour que ce soit collecté, mais pour qu'il y ait aussi, que ce soit pas forcément que de l'extraction, qu'il y ait aussi un échange entre les institutions et les associations. Parce que les deux, en fait, vont apprendre l'une de l'autre. Les associations sur comment archiver, le goût de l'archive, des documents, les mémoires, c'est important. Les associations militantes n'ont pas forcément ce goût. Et puis, ils ne savent pas forcément, en fait, que c'est très important, ces documents. Et puis, les institutions aussi. Les institutions, par le passé, n'ont pas forcément bien archivé, collecté les documents sur les communautés queer. Donc c'est une étape qui est en train de se mettre en place. Ça fait déjà un moment qu'elle est en place sur Lyon depuis 10 ans. Et donc on essaye de poursuivre cette étape puisque, par exemple, comment on archive, comment on inventorie, avec quels mots on utilise. On a tout un vocabulaire, nous les queers, les LGBT, qui peut être assez abscon aussi pour des personnes qui ne sont pas au courant, ou même des personnes LGBT, en fait. On a un discours assez, pas facile d'accès. Donc, et les institutions aussi ne sont pas forcément au courant de ces discours-là et peuvent aussi faire des erreurs parfois. Voilà. Donc elles ont aussi à apprendre de cette expertise des associations. Voilà. Donc c'est un échange et un partage qu'on essaye de mettre en place.
Merci Roméo Izart.
Merci à toi Yvan.
Donc beau symbole, la bibliothèque inauguration le 17 mai, donc journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie. Merci Roméo.
Merci.
Pluriel Gay.
Loïc Grabert, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes le nouvel adjoint à la culture de la ville de Lyon. Vous avez aussi un passé de militant associatif envers de lutte contre les LGBT-phobies. Mmh. Et vous êtes là ce soir, donc à l'inauguration de la bibliothèque du centre LGBTI de Lyon, en ce 17 mai 2018, journée de lutte internationale contre l'homophobie et la transphobie. Merci d'être avec nous. Votre présence est très appréciée puisque c'est une présence institutionnelle. Nous sommes très attachés à cette représentation institutionnelle pour ces luttes.
Merci pour votre invitation à partager quelques mots avec vous. C'est effectivement quelque chose de fort, à la fois pour la journée symbolique, vous l'avez dit, mais aussi pour ce que représente ce centre, cette bibliothèque au sein du centre LGBTI de Lyon. On a beaucoup tendance à dire aujourd'hui, et la publication du dernier rapport des SOS Homophobie montre que les actes homophobes ne cessent de progresser aujourd'hui. Et s'ils ne cessent de progresser, c'est sans doute parce qu'il demeure aujourd'hui en 2018 en France une vraie méconnaissance de ce que sont les personnes LGBTI. Et avoir des lieux ressources comme nous allons en avoir un aujourd'hui au sein de ce centre est une réponse qui permet de lutter contre les préjugés, contre les a priori, de pouvoir trouver des réponses avec les bouquins, les CD, les DVD, les revues, tout ce qui est proposé ici, et de lutter donc contre ces préjugés, contre ces méconnaissances. Deuxième point, c'est que c'est aussi pour l'ensemble des personnes qui militent dans les différentes associations représentées ici au sein du centre, un outil fabuleux pour préserver cette culture collective, culture de ce que sont les uns et les autres, culture que l'on retrouve bien au-delà des personnes LGBTI qui transcendent toutes nos sociétés depuis une cinquantaine, une soixantaine d'années maintenant, mais culture aussi de ce qu'est le mouvement associatif, de tout ce qu'il a su construire, et ici en particulier à Lyon. On a tendance, quand on est dans des associations, à militer au quotidien, mais avec le temps qui passe, on n'a pas forcément ce regard sur le passé. Et avoir un lieu qui justement peut collecter ces histoires, ces archives, ces bouquins, permet de regarder d'où on vient pour se projeter sur là où on veut aller. Et en ça, ce centre est vraiment très, très intéressant et très pertinent à Lyon.
Vous avez fait un petit tour sur la bibliothèque
J'ai fait un petit tour, j'ai retrouvé effectivement quelques exemplaires assez historiques de Tétu, de Guépier, des ouvrages bien connus, des DVD aussi, des catalogues. Donc il y a beaucoup de choses.
Vous pensez aussi que vous êtes cinéphile, vous venez souvent en projection d'écran mixte. Et il y a notamment ici, on passe ce soir le documentaire sur Armicide Maupin, il y a notamment là toute la collection des chroniques de San Francisco, que vous avez sûrement lu.
Lu et vu en partie.
Et la ville de Lyon est un modèle, à mon sens, de lutte contre les LGBT-phobies. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des actions menées à l'année par la ville de Lyon de sensibilisation et de lutte contre les LGBT-phobies?
Alors déjà, le lieu qui nous accueille ici est un lieu que la ville de Lyon a vraiment encouragé depuis le départ, c'est-à-dire à la fois la réunion du FGL, du foyer gay et lesbien, du forum gay et lesbien, pardon, et de Harris, pour pouvoir avoir dans un même espace plus de moyens, plus de possibilités, et la ville accompagne le fonctionnement de ce lieu. La ville accompagne financièrement beaucoup d'acteurs associatifs, que ce soit le festival Écran Mix, que ce soit la LGP qui organise la Marche des Fiertés, que ce soit l'association Cargo et bien d'autres. On est vraiment aux côtés des acteurs qui défendent des événements de rassemblement, des moments de convivialité et puis des moments effectivement de militantisme. Et puis tout au long de notre politique ou de nos politiques globales, on lutte aujourd'hui dans nos services, je pense à la ville de Lyon en particulier, hein. La ville de Lyon, c'est pas loin de 9000 agents, donc la lutte contre les préjugés, contre les discriminations, c'est aussi un travail du quotidien auprès de ces personnes pour rappeler les règles d'égalité et puis pour être aux côtés de tous ces agents dans leur propre vie. Donc on a une politique à la fois d'accompagnement financier, une politique interne à la ville de Lyon, et puis une volonté d'être toujours à l'écoute, réceptif sur les initiatives qui peuvent être prises par les uns et les autres et les accompagner au mieux.
Eh bien, merci. Est-ce que vous serez présent avec nous sur la marche des fiertés qui aura lieu le 16 juin?
C'est ça, le 16 juin, je serai présent, bien sûr, comme chaque année.
Merci Loïc Grabert, adjoint à la culture de la ville de Lyon.
Merci à vous.
Eh bien, pour cette soirée d'inauguration de la bibliothèque du centre LGBTI en ce 17 mai, journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, nous avons avec nous l'association SOS Homophobie qui rend public ce soir son rapport 2018. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Clément, bonsoir Juliette, bonsoir
Maxime.
Bonsoir Maxime.
Alors effectivement, aujourd'hui c'est un jour assez important pour notre association parce que comme toutes les années, le 17 mai, nous sortons le rapport annuel qui dresse un état des lieux sur l'homophobie en France. On présente les chiffres 2017. Ces chiffres sont basés sur l'ensemble des témoignages que notre association a obtenus pendant toute l'année en cours. Et cette année, ce qui est important à retenir en chiffres essentiels, c'est qu'on a une nouvelle fois une hausse de l'homophobie, ce qui était déjà le cas en 2016. On a 5% d'augmentation d'actes homophobes dans le rapport 2018, donc qui représente les chiffres 2017. Et on avait déjà une hausse en 2017 par rapport aux chiffres 2016, où on avait 20%. Soit depuis 2 ans, une augmentation de 25% des témoignages.
Mais ce sont des actes, et vous les quantifiez comment ces actes? Est-ce que ce sont des actes déclarés ou bien ce sont des actes non déclarés?
Alors nos sources actuellement sont basées sur les appels qu'on peut recevoir via notre ligne d'écoute ou alors les témoignages qu'on peut avoir sur notre site internet.
Donc ça c'est en augmentation?
Exactement, c'est en augmentation. En 2017 on a eu 1500 témoignages via ces deux moyens. Et on explique l'augmentation par deux phénomènes. Essentiellement, une augmentation des témoignages liés à une libération de la parole. Et également aussi une augmentation liée à l'augmentation des actes homophobes en France. Ce qui est important peut-être à dire, si on regarde un peu plus dans le détail, on voit que les personnes gays sont aujourd'hui les plus touchées, notamment pour les agressions physiques. Et également, on observe une augmentation des témoignages des personnes trans. On a d'ailleurs une augmentation de 15% cette année d'agressions physiques, qui représente une part importante des actes homophobes, en plus des insultes ou des autres phénomènes qu'il peut y avoir.
Et en 2016, c'était une augmentation de 45% sur les agressions physiques dans les lieux publics. Donc on voit que depuis plusieurs années, les agressions physiques elles ne font que augmenter, et le climat homophobe en tout cas est bien ancré et s'installe dans la société.
Aujourd'hui en France, il faut savoir qu'il y a une agression homophobe tous les 3 jours. Donc ça c'est important de signaler, que ça peut être aussi bien, surtout au niveau des agressions physiques. Après l'homophobie, et c'est ce qu'on explique dans le rapport, ce n'est pas que les agressions physiques, c'est également l'homophobie, nous ce qu'on appelle au quotidien, qui est représentée par des incivilités, par des actes du voisinage qui pourrissent la vie des personnes LGBTI vraiment tous les jours.
D'accord. Et je crois que justement, Maxime, tu as un témoignage de voisinage.
Oui, le rapport contre l'homophobie, c'est une succession de témoignages avec des analyses classées par thématique et en particulier pour illustrer ce côté homophobie ordinaire, homophobie du quotidien. Je voulais effectivement vous partager ce témoignage qui est relaté sur le rapport. Philippe et Thomas sont victimes d'actes homophobes. Gestes douteux, insultes et dégradations comme des jets de pierre, de pommes de terre ou de clémentines sur leurs volets, même en pleine nuit, parfois des rayures sur leur véhicule. Aujourd'hui, les deux hommes sont contraints de se garer loin de leur domicile pour éviter toute complication. On voit bien là que c'est quelque chose qui est hyper, qui s'insinue dans leur vie au quotidien, sur lequel ils peuvent malheureusement pas mettre de personne en face, et on peut pas aller porter plainte à chaque fois qu'on a un jet de pierre, de pommes de terre ou de clémentine sur son volet. Ça peut paraître risible comme ça, mais sauf que c'est hyper violent. Et effectivement, la difficulté, il y en a plein dans le rapport, c'est de pouvoir arriver à avancer dans ces conditions.
On voit bien, les témoignages sont placés par thème, et là on parle du lieu public, du voisinage, et si on additionne le lieu de travail, les commerces, la rue, tout ce qu'on a dans notre quotidien, il n'y a vraiment aucun espace qui est épargné. Les victimes témoignent d'actes homophobes, que ce soit dans leur vie perso, dans leur vie professionnelle. La vie familiale, on est vraiment entouré.
Ce qui est important à dire, peut-être, c'est voilà, aujourd'hui, on dresse ce constat, c'est un état des lieux, il est ce qu'il est par rapport à un ensemble de témoignages qu'on a reçus. On ne prétend pas avoir des chiffres et connaître toutes les statistiques en France. Ce qui est important, c'est juste de regarder aussi les tendances, de voir que malgré une évolution de la société, une acceptation plus facile des personnes LGBTI dans notre société, on continue quand même à avoir une augmentation de l'homophobie en France. Et ça, enfin, au moins une augmentation des témoignages qui est traduit notamment par une augmentation des agressions. Maintenant, la question à se poser, c'est qu'est-ce que nous, en tant qu'association militante, on peut faire justement pour aider ces personnes et au quotidien, je dirais que c'est vraiment notre action d'aider les personnes. Et nous, on a trois rôles au sein des SOS Homophobie aujourd'hui. C'est à la fois la prévention. On va beaucoup agir, notamment en milieu scolaire, pour intervenir dès l'adolescence et éduquer aussi les jeunes, parce que l'homophobie, c'est souvent une peur. C'est souvent une peur de l'inconnu. Les gens ne connaissent souvent peu de personnes homosexuelles, peu de personnes trans. C'est aussi un moyen de montrer, d'expliquer ce que sont ces personnes pour justement qu'elles soient mieux acceptées dans la société. On va également militer, ça passe par l'acceptation au niveau de la société, militer pour les nouveaux droits des personnes LGBT, enfin pour que ces personnes aient les mêmes droits que les personnes hétérosexuelles. Il y a d'ailleurs en ce moment des débats, notamment sur la PMA. On participe à ces débats et on espère qu'on va continuer à intervenir dans le débat, avec notamment un calendrier parlementaire qui va se préciser sûrement autour du mois de juin. Et enfin, on joue un rôle pour aider les victimes. Et ça, c'est important. On voit aussi, pour donner qu'un exemple, j'écoutais tout à l'heure à la radio les écoles de police qui sont très intéressées justement pour former leurs futurs policiers à la lutte contre l'homophobie. À nouveau, ça passe par la connaissance, par l'apprentissage. Aujourd'hui, quand on est une personne homosexuelle, c'est pas toujours évident d'aller au commissariat, de témoigner, même si on a la loi pour nous, et d'évoquer les actes qu'on a subis. Donc voilà, tous ces phénomènes sont importants à évoquer, sont importants à connaître. Il faut vraiment militer pour une plus grande visibilité des personnes LGBTI. Ça, c'est très important.
Et tout à l'heure, nous avons eu Loïc Grabert, adjoint à la culture de la ville de Lyon, qui nous expliquait qu'à la ville de Lyon, justement, ils forment leurs agents municipaux à la lutte contre les préjugés, contre l'homophobie. Est-ce que vous voyez aussi des différences d'actes d'incivilité et d'actes homophobes dans des villes justement qui n'ont pas ce souci de former ces agents municipaux?
Les témoignages que l'on reçoit, ils sont pas à majorité dans les grandes villes, en fait. Le phénomène d'homophobie, il est vraiment dispatché sur la France entière. Il me semble qu'on était à 45% de témoignages par exemple sur la région parisienne et l'Île-de-France, mais ça montre bien qu'il n'y a pas qu'à Paris ou que dans les grandes villes que les insécurités elles sont présentes, et dans les petits villages, dans les campagnes, il y a également eu des insultes, des violences. Et en tout cas, on en parlait dans les interventions milieu scolaire, mais on essaie vraiment de déconstruire les insultes, les stéréotypes, et d'instaurer une atmosphère dans laquelle les personnes LGBT peuvent se sentir en confiance, peuvent être eux-mêmes tout simplement et vivre librement, de plus avoir peur de se tenir la main dans la rue, de plus avoir peur d'embrasser son copain ou sa copine sur le quai d'une gare. C'est des choses que les personnes hétérosexuelles, ça leur traverse même pas l'esprit, en fait, le fait de prendre un risque parce qu'on va faire cet acte.
Alors expliquez-nous un petit peu comment se passent vos ateliers de sensibilisation aux préjugés, à l'homophobie au sein des classes.
C'est des interventions qui durent 2 heures, des interventions qui se font au collège, au lycée, voire aussi en milieu étudiant et professionnel aussi, parce que finalement il n'y a pas que les jeunes qu'on doit sensibiliser à ces questions-là. Et c'est des sessions de sensibilisation à déconstruire des idées reçues autour des personnes homosexuelles, où on parle des discriminations en général, parce que finalement, à chaque niveau, chacun peut se retrouver toujours discriminé pour une raison ou pour une autre, parce qu'il est trop gros, trop maigre, trop grand, trop petit, trop de certaines religions, trop de je ne sais quoi, ou homosexuel, ou d'une certaine couleur, bref. Des critères de discrimination, il y en a plein, et chacun peut se retrouver là-dedans. On ancre un petit peu ces choses-là là-dessus pour que les gens se raccrochent à un discours et comprennent un petit peu ce que c'est qu'une discrimination.
Ce qui fait que finalement, tout le monde peut s'identifier. Finalement.
Exactement. Et sachant qu'on déconstruit et on explique le mécanisme d'une discrimination, certes, parce que c'est le même mécanisme, quelle que soit la motivation à la discrimination. Et après, derrière, effectivement, on parle de ce que c'est que les personnes LGBT, des mouvements de défense des droits des personnes LGBT et des discriminations. On parle en particulier des insultes. insultes, pour déconstruire les idées qu'il y a autour de ces insultes et qu'est-ce qu'elles génèrent en termes de sens derrière les insultes pour les lesbiennes, pour les gays, pour les bi ou pour les trans. Et justement, là derrière, il y a beaucoup de prise de conscience de la part des gens qui sont face à nous pour comprendre finalement, par ce biais un petit peu simple, comment ça s'insinue dans la vie de tous les jours. Quand par exemple un collégien ou un lycéen entend 50 fois par jour le mot pédé ou enculé, et ben c'est quelque chose qui marque certainement les personnes concernées, parce que forcément on sait ce que désignent ces mots et on sait le mal que ça peut faire après derrière, en légitimant aussi certains discours derrière de haine et de violence.
Ben oui, quand toute son enfance on entend qu'on est un sous être humain,
le terme pédé n'est jamais utilisé positivement. Je veux dire, au collège, quand t'as une note de pédé, bah t'as pas un 20 sur 20, quoi. Et donc malheureusement, c'est dégradant, c'est humiliant, c'est rabaissant. Donc forcément, quand on est soi-même pédé, pédéraste de son sens premier, d'ailleurs la plupart des gens en font l'amalgame avec la pédophilie parce qu'ils disent pédé, ça veut dire pédophile, mais voilà, on déconstruit aussi ces choses-là. Mais quand on entend ces mots-là, forcément, à un moment, il y a une espèce de prise de conscience inconsciente que on n'est pas bien désiré dans la société. Et c'est pour ça qu'on déconstruit ces idées directement chez les jeunes.
Alors vous êtes SOS Homophobie Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes?
La délégation de Lyon, tout à fait, oui, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes.
Donc votre champ d'action, il est sur toute la région?
Oui.
Donc vous faites des interventions en classe, est-ce que vous faites aussi des partenariats avec des institutions par exemple? Vous travaillez aussi avec Écran Mixte. Cette année, en mars dernier, vous avez fait des interventions en milieu scolaire et vous avez présenté avec nous le film Pride, qui est un film justement qui parle de convergence des luttes, mais aussi de toute forme de préjugés qu'on peut avoir d'un groupe social envers un autre. Quel autre style d'action vous faites?
On peut intervenir dans différents types d'événements. On intervient également dans des soirées, notamment à Lyon, parce qu'il peut, enfin, il peut même y avoir de l'homophobie, je dirais, au sein même de soirées qui peuvent contenir des personnes homosexuelles. On intervient, comme tu l'as dit, en fait, avec Écran Mixte, où là, c'était l'occasion aussi de toucher une population de scolaires dans un contexte un peu différent, d'utiliser un support qui est un film pour leur montrer aussi les possibilités qu'il peut y avoir, l'ouverture d'esprit qu'il peut y avoir, la convergence des luttes. On intervient dans des établissements scolaires, on intervient aussi...
Les centres de formation, ça peut être pour la gendarmerie, les centres de formation, on avait des étudiants en médecine qui nous avaient contactés.
Des étudiants infirmiers
des
également.
Des infirmiers, l'éducation nationale, parce que bon, on discute avec les collégiens et les lycéens, mais finalement les profs n'ont pas forcément toujours les armes pour pouvoir répondre à un acte homophobe dans la classe. Les profs ne savent pas toujours comment réagir, donc c'est important qu'ils aient les armes et puis rien que les éléments de langage, de pouvoir expliquer ce que ça veut dire, c'est parfois suffisant, puisqu'il y a pas mal d'amalgames et pas mal de choses que les personnes ne connaissent pas.
Moi, par exemple, à l'école, je m'appelle Mitifio, mon nom de famille, on m'appelait Mimi, la folle du collège. Bon. Et le prof, un prof qui avait entendu ça en cours de récré, m'avait appelé en classe, alors Mimi. Et là, toute la classe avait éclaté de rire. Donc,
L'atmosphère, c'est vrai qu'elle est importante. Normalement, un collégien ou un lycéen doit se sentir épaulé par le corps adulte, par les adultes, et c'est important que ce soit à la gendarmerie, aux infirmières, dans les hôpitaux. On a pas mal de cas où les personnes trans, finalement, ont pas mal de rejets aussi de l'administration. Ils peuvent avoir de l'homophobie, même rien que le fait d'aller au commissariat, de présenter ses papiers pour rentrer dans un établissement français, ça peut être n'importe quelle préfecture, il peut y avoir des cas d'homophobie, donc pas vers ce corps de métier en tout cas qu'on s'y attendrait.
En même temps, on intervient aussi justement pour aider ces métiers-là. Comme je disais tout à l'heure, on peut intervenir auprès plus d'adultes pour les former justement à l'accueil des personnes qui sont victimes. On a été également contacté récemment par les centres de formation des professeurs. On a édité d'ailleurs déjà depuis quelques temps un guide qui est disponible sur notre site internet qui s'appelle le kit cartable à destination des personnels enseignants, pour aussi que eux apprennent les termes, soient familiarisés avec ce langage et puissent justement mieux connaître les personnes homosexuelles, mieux connaître les termes et surtout savoir comment réagir face à un cas d'homophobie. C'était une démarche aussi, même pour des personnes qui n'ont pas forcément été formées, au moins de leur fournir un support pour les aider.
On est intervenu aussi récemment, un petit exemple, et c'est retour d'expérience, on était sur un centre de formation du football, ça faisait très très longtemps qu'on n'était pas venu dans un centre de formation de football de Ligue 1 à Dijon, et c'était hyper intéressant de voir le parallèle qu'on pouvait mener des discriminations que subissaient les jeunes en formation, soit par leur couleur de peau, soit par le fait d'être sportifs footeux dans les lycées généraux, et donc ils étaient pris pour les mauvais pas intello du coin, ou parce qu'ils pratiquaient une religion qui était différente de celle majoritaire dans le collège ou dans le lycée, là où, selon leur âge, et du coup relier tout ça à l'homophobie, puisque encore une fois c'était une autre discrimination au même niveau, c'est hyper intéressant de voir comment les gamins pouvaient réaliser qu'au sein même de leur propre groupe, finalement, ils mettaient en place des phénomènes de discrimination entre eux, alors qu'eux-mêmes subissaient d'autres discriminations, pour essayer de leur faire prendre conscience aussi de comment faire en sorte d'aller vers un mieux vivre ensemble, finalement.
Ce qui est important de rappeler aussi, c'est que notre association, elle est aussi là pour aider les victimes, et ça, c'est un rôle qui est très important. Nous, à Lyon, on est justement en train de développer cette démarche. Aujourd'hui, il y a une ligne d'écoute nationale, et si je peux juste rappeler le numéro justement, qui est le 01 48 06 42 41. Il faut vraiment essayer, et n'hésitez pas à appeler ce numéro si vous êtes victime, si des personnes sont témoins d'actes homophobes. Ça permet à la fois de recueillir le témoignage, on offre une aide à toutes les personnes qui sont victimes ou même qui sont témoins. Ça peut être des aides psychologiques, une aide juridique. On s'est porté partie civile dans nombreux procès, justement aussi pour que la loi elle soit respectée. Voilà, donc ça c'est vraiment important, et on essaie de développer ça aussi au niveau des délégations régionales, même si le numéro est national, il y a des bénévoles qui sont là pour écouter en permanence les victimes.
Donc ça se passe comment ces écoutes Vous avez une antenne à Lyon, même si c'est le numéro national.
Alors le numéro est national, donc aujourd'hui les écoutes se font qu'à Paris. Donc en fait les personnes qui appellent vont tomber sur des personnes écoutantes qui sont basées à Paris, mais qui vont pouvoir les rediriger vers éventuellement des avocats, vers des psychologues. Et il y a effectivement une liste de personnes qui est disponible pour pouvoir les aider. Nous, aujourd'hui, on est contacté à Lyon aussi via notre page Facebook, SOS Homophobie Délégation de Lyon. On est visible sur Facebook, et on va éventuellement rediriger les personnes vers ces contacts. Et à partir de l'année prochaine, on va développer justement l'accueil pour pouvoir faire plus un accueil de proximité pour ces victimes.
D'accord. Pour l'instant, vous n'avez pas de locaux d'accueil.
Alors aujourd'hui, on n'a pas de locaux d'accueil. On est basé, nous, au centre LGBTI de Lyon. Mais effectivement, on n'a pas de local aujourd'hui pour pouvoir accueillir ces victimes. Néanmoins, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on rencontre les personnes, et on peut les rencontrer au centre actuellement.
On peut être relais finalement pour tout ça.
Oui, vous faites des permanences
au-delà, ouais. Voilà, au-delà de la ligne d'écoute, parce qu'il y a eu un acte homophobe, on est aussi un groupe, voilà, on est une trentaine sur Lyon, mais tous les premiers lundis du mois on a nos réunions mensuelles, et avant ça on organise des permanences pour les personnes qui peuvent être intéressées parce qu'elles veulent être bénévoles ou parce qu'elles veulent venir échanger parce qu'il aurait arrivé quelque chose. Même si elles ont par le passé témoigné à travers la ligne d'écoute, ça peut arriver que localement on puisse quand même faire quelque chose, que ce soit les soutenir ou que ce soit les écouter. On n'a pas forcément toutes les armes, parce que c'est important d'être formé pour pouvoir écouter ces témoignages, mais rien que le fait, je dirais, de se sentir accueilli dans un lieu comme le centre LGBTI, où on va rencontrer une vingtaine de personnes qui ont chacune une histoire différente aussi, donc ça peut être intéressant de discuter avec elles. Et on a toujours besoin de bénévoles, parce qu'on a de plus en plus de demandes des collèges et des lycées, et on n'arrive pas toujours à... On n'est pas forcément assez disponible pour répondre à toutes les demandes, donc...
N'hésitez pas, si des personnes nous écoutent et sont intéressées, pour intervenir en milieu scolaire, et c'est très intéressant justement aussi d'avoir ce contact avec les jeunes.
On en apprend aussi
sur nous-mêmes, c'est super intéressant d'avoir ce dialogue. N'hésitez pas à nous contacter pour que justement on puisse recruter plus de personnes qui interviendront dans les milieux scolaires. Nos permanences, c'est effectivement tous les premiers lundis du mois au centre LGBTI à Lyon, rue des Capucins. Et l'accueil des nouveaux se fait de 18h à 19h30.
D'accord. 18h à 19h30.
Exactement.
Et si on est victime d'actes homophobes et qu'on a envie de venir vous parler, on peut
venir... On peut venir effectivement échanger, comme l'a dit Juliette. C'est aussi un moment qui est réservé pour écouter les gens. Et des fois, on accueille des personnes qui ont envie de raconter leur histoire. Et c'est intéressant de partager et surtout de pouvoir échanger avec d'autres.
Vous êtes tous actuellement bénévoles?
On est tous bénévoles, il n'y a aucun salarié à Lyon, on a environ une trentaine de bénévoles dans la délégation.
C'est un travail très impressionnant, parce que ne serait-ce que ce que vous avez fait sur écran mixte, c'est déjà très impressionnant. Alors ce que vous faites sur l'ensemble de vos actions, franchement, bravo.
Aujourd'hui, on a environ une centaine d'interventions au milieu scolaire par an. On intervient en Rhône-Alpes, en Bourgogne, on sensibilise environ 3000 élèves par an. On aimerait en faire plus via les IMS, effectivement, parce qu'on a énormément de demandes. Et voilà, et on le fait aussi parce que ça nous apporte, à nous, bénévoles.
Et quelles sont vos ressources financières à SOS Homophobie ?
Alors, au niveau des ressources financières, on fonctionne essentiellement avec le don, c'est-à-dire avec des personnes qui adhèrent à SOS Homophobie. L'adhésion, en fait, peut se faire très simplement via le site internet national soshomophobie.org. L'adhésion, en fait, permet justement de participer à nos actions. Aujourd'hui, on a environ 1500 adhérents actifs, c'est-à-dire bénévoles, mais on peut très bien, tout simplement, adhérer et pour faire un don en payant la cotisation sans forcément intervenir et participer aux actions, quoi.
Oui, parce que ça coûte de l'argent de faire des interventions au milieu scolaire.
Ça coûte de l'argent.
On n'est pas rémunéré pour le faire. C'est vraiment un service que l'éducation nationale, enfin, un agrément avec l'éducation nationale. Donc l'argent, c'est plutôt voilà, les trains ou l'essence pour y aller. Mais on n'est pas voilà, comme un centre de formation. En tout cas, on n'est pas rémunéré pour le faire. Et nous, on prend des jours de congé pour pouvoir...
Les établissements participent parfois à ces frais. Ça permet de compenser aussi le fait de se déplacer à 2h30 de route de Lyon pour aller jusqu'à Dijon ou en Bourgogne, dans la campagne, je ne sais où. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de lieu plus particulier où l'homophobie s'exprime. On va partout là où on peut, en fonction de la dispo de chacun. Mais effectivement, c'est sur la base des temps de travail et de temps libre de chacun, quoi.
Après, sur le financement, on obtient aussi des subventions, notamment par la DILCRA. On peut avoir un certain nombre de subventions. Ça peut être le cas, un de nos moyens de financement.
Puis après, on a quelques événements du coup, qui sont des événements plus festifs et conviviaux. Parce que malgré tout, ça fait du monde qui se rassemble et qui a plaisir à se rassembler au sein des bénévoles et qui a plaisir à faire connaître son association et faire des événements, et que ce soit des soirées qu'on peut faire ici au centre LGBTI, ou, et si c'est l'occasion de passer le message, déjà lors de la marche des fiertés, le 16 juin, vous pourrez nous rejoindre sur la marche, puisqu'on aura très certainement un camion présent sur cette marche. Et la veille au soir, on organise une grande soirée de théâtre d'improvisation sur le campus de l'Adoua, le 15 juin, donc c'est à 21h. La veille au soir, effectivement, le vendredi. Soirée de théâtre d'improvisation qu'on a dénommée « Fuck l'homophobie », pour prendre à contre-pied tous les actes homophobes et de discrimination en général, pour prendre le parti d'en rire et de passer un bon moment convivial, pour passer des grands messages aussi du vivre ensemble, encore une fois, à travers l'humour, la dérision et la prise à partie d'un public, puisque c'est un spectacle complètement improvisé qu'on va organiser dans cette salle. Donc c'est à la Rotonde, sur le campus de l'Adoua, à l'INSA, à partir de 21h, ouverture des portes, je crois, une petite heure avant. Voilà, ce sera une très belle soirée. Il y a juste à se pointer et venir participer à cette belle manifestation aussi.
Un dernier mot de la fin ? Sur votre rapport, encore un chiffre.
Ça fait 22 ans. Ouais. On aimerait bien qu'il n'existe plus.
Ouais.
Malheureusement, il est encore là. Mais tout ce qu'on fait tous les jours, à la fois de recenser ces témoignages, d'agir pour sensibiliser, de soutenir les gens qui sont vraiment victimes, qui ont besoin de soutien, et ben, ça nous fait dire qu'on a raison d'exister, même si on préférerait faire autre chose et ne pas être là. Enfin, pas faire autre chose, mais en tout cas, ne pas être là. Peut-être rappeler le numéro de la ligne d'écoute, le 01 48 06 42 41. Le site internet de SOS Homophobie, donc sos-homophobie.org, sur lequel vous pouvez témoigner, adhérer, télécharger également le rapport annuel, puisqu'il est disponible gratuitement par ce biais-là, où vous pouvez l'acheter pour soutenir également l'association directement auprès de nous, lors des événements qu'on organise ou bien lors de nos réunions.
On a également un site internet à destination plus des adolescents qui s'appelle c'estcommeça.net, qui est aussi une source d'information intéressante pour cette personne.
Eh bien, un grand merci à toute l'équipe d'SOS Homophobie de Lyon.
Merci à vous.
Vous faites un travail absolument formidable. On va vous suivre, on va marcher avec vous pendant la marche des fiertés le 16 juin. Et on va, voilà, le combat continue. Nous, on le fait à écran mixte par la visibilité, montrer des œuvres dans le maximum de lieux possible, parce qu'on estime que multiplier les lieux, ça montre aussi que ces lieux-là ne sont pas homophobes. Et quand on est un jeune, on se rend compte que les bibliothèques ne sont pas homophobes, que les cinémas ne sont pas homophobes. C'est important aussi de montrer qu'il y a des alliés partout dans la vie civile, même si parfois on se sent un peu désespéré. Voilà. En tout cas, bravo, vous êtes formidables, à très bientôt.
Merci.
Merci,
merci,
au revoir.
Pluriel, 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 pluriel. Yeah.
C'est la conclusion de notre émission de ce soir. Une émission donc réalisée par Yvan Littifio au Centre LGBTI, à l'occasion donc de l'inauguration de la toute nouvelle bibliothèque du Centre. Nous nous retrouverons la semaine prochaine avec la LGP, Lesbian and Gay Pride de Lyon, puisque nous allons entrer dans la quinzaine des cultures LGBTI avec comme point d'orgue donc la Marche des Fiertés, qui se déroule à Lyon le 16 juin cette année, organisée donc par la LGP, qui sera présente la semaine prochaine ici. Quelques événements d'ailleurs en relation avec la quinzaine des cultures. Vendredi 8 juin, c'est à la mairie du 3e qu'il faudra être pour le buffet inaugural de la quinzaine des cultures, à partir de 19h, mairie du 3e donc. Le même soir, au Comédia, l'avant-première du film « Un couteau dans le cœur » en présence du réalisateur Yann Gonzalez, un film avec Vanessa Paradis dans le rôle d'une lesbienne productrice de porno gay. Voilà, alors je vous laisse découvrir ce film. Ça sera en avant-première donc organisé par Écran Mixte. Vendredi soir, le Comédia à 20h et le public pourra dialoguer avec le réalisateur qui sera présent. Le réalisateur du film, Yann Gonzalez. Pour terminer ce petit agenda, 9 juin, au Centre LGBTI 19 rue des Capucins, Lyon 1er, à partir de 13h, et toute la journée, va se tenir le salon de la BD et du manga LGBTI, avec la présence de nombreuses créatrices et créateurs dans ce domaine. C'est au Centre LGBTI, ça je l'ai dit. Il faut y aller absolument pour découvrir cet univers. Même si vous ne connaissez pas bien, ce sera l'occasion de découvrir et de rencontrer de nombreux auteurs. Le Festival de la BD et du manga LGBTI est inscrit dans le off du Lyon BD Festival qui se déroule ce week-end à Lyon. Voilà, nous allons terminer avec un duo improbable que nous avons déjà passé ici à l'émission, puisqu'il s'agit de Nina Hagen en compagnie de Nana Mouskouri qui chante Lily Marlène. Alors pourquoi Nina Hagen et pourquoi Nana Mouskouri? En fait, c'est surtout pourquoi Nina Hagen, parce qu'elle est passée il n'y a pas longtemps à l'Opéra de Lyon pour interpréter des textes de Brecht, et qu'on nous a dit que c'était pas mal du tout, et que nous l'aimons bien sur Pluriel Gay. Voilà. À la semaine prochaine.
Laterne steht wie einst Leben.